Allez, on y va sur les marchés. Eh ben, on est toujours plus près des étoiles, hein. Petite hausse cette semaine, mais quand même sympa. Et puis surtout, bon voilà, depuis le début de l'année, 10%, 10% pour le S&P, 15% pour le Nasdaq, 32% pour le Nikkei, le MSCI World, 10% de hausse. Avant de parler des marchés en général, j'ai été très frappé cette semaine, Virginie, par les chiffres et par l'unité de tous ces chiffres. Là, je voulais parler évidemment de l'annonce d'Alphabet qui a dit, bah attendez, oui, il y a des gens qui s'introduisent en bourse et qui lèvent des 75 milliards, mais moi, je suis en bourse depuis un moment, et ben moi aussi, je vais lever 85 milliards.
C'est quand même...
C'est nouveau, hein.
C'est nouveau. On n'a pas vu ça depuis 20 ans sur ces grosses boîtes de
c'est ça.
Ces gros seniors.
On explique un peu aux gens, parce que quand on rentre en bourse, bon, ben, on lève de l'argent, donc c'est assez naturel. Voilà. Même si les montants dont on parle aujourd'hui sont colossaux, il faut se rendre compte que l'introduction en bourse dont on parle de SpaceX, 75 milliards de dollars, c'est gigantesque. Je crois
c'est surtout la valorisation derrière qui est induite.
Aussi, mais déjà les levées.
Google, tout le monde dit, ah ben oui, mais 80 milliards, c'est rien par rapport à leur market cap, hein, la capitalisation boursière de plusieurs trillions. Ok, mais quand même,
c'est des montants colossaux. Tout ça va aller dans l'IA, donc tout ça va aller dans la croissance américaine.
Parce qu'ils ont toujours le choix d'aller sur de la dette.
Et ils le font aussi.
Ils le font aussi, bien sûr. Ils ont toujours le choix aussi de procéder à moins de rachats d'actions. Ça peut arriver d'ailleurs, hein. C'est peut-être quelque chose qui va arriver dans les discours des prochains mois. Donc c'est quand même on sent bien que là c'est la course à investissement et que ça entretient cette euphorie.
Alors c'est marrant, je vous sens vous qui êtes toujours ultra enthousiaste, hein, sur les boîtes américaines.
Je suis toujours enthousiaste sur les boîtes américaines, mais là
je sens une petite réticence, c'est-à-dire j'ai l'impression que les chiffres qui nous donnent nous le tournis. Vous dites quand même, il y a peut-être un peu d'euphorie.
Oui, on est dans l'euphorie et on est dans l'euphorie sur une certaine catégorie. Il faut savoir que le S&P 500, les 10 premières sociétés, c'est 42% du S&P 500. Et ce phénomène
historiquement
de
concentration
s'auto-entretient, voire se développe avec la gestion passive. Et on est sur un sujet là, on est vraiment sur un sujet. Et que 70% de la hausse sur les deux derniers mois du S&P 500, c'est pas les traditionnels. Alors peut-être un peu les tech, celles qu'on connaît, les Apple, etc. C'est les semi-conducteurs, faut pas se tromper.
C'est des puces, hein.
Et quand vous avez certaines sociétés qui, certes, il y a une réalité derrière, d'accord ? Mais quand vous avez ces sociétés qui se retrouvent, qui sont cycliques et qui sont, on peut le dire quand même, dans un schéma de commodité et qui se retrouvent à se payer 500 fois les résultats, on peut se poser la... Oui, vous prenez ARM Holding, on peut se poser la question. Et c'est auto-entretenu, il y a beaucoup de narratifs. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que on est plus dans ces logiques de flux qui se déversent sur les marchés que dans une vraie analyse fondamentale.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'explication qu'ont donné un ou deux spécialistes des bitcoins, puisque bitcoin a pas mal...
Ça n'intéresse plus personne, vous avez vu ?
C'est qu'en fait, il y a de la sortie de flux des bitcoins pour aller vers se préparer pour les SpaceX.
Mais pourquoi vous allez faire du bitcoin, faites des trucs dans l'espace ?
Alors, juste
franchement, Marc, vous êtes asbine.
J'imagine que vous avez des copains ou des copines qui vous appellent en vous disant est-ce que j'achète du SpaceX, ça va s'introduire, qu'est-ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous leur dites?
Non, mais les gens en ont déjà beaucoup parce qu'il y avait déjà moyen d'avoir.
Mais aujourd'hui, quelqu'un vous dit je participe
on est dans la lecture du prospectus et c'est une société très intéressante, c'est fabuleux. Moi, j'aime beaucoup Starlink, hein, alors c'est un peu la vache à lait là, mais donc bien sûr qu'on va suivre, mais on va pas se précipiter. On va prendre notre temps.
Vous allez suivre, c'est-à-dire vous allez rentrer à l'introduction ?
Non.
Vous allez investir ?
Non.
Vous allez...
Non. Non, 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 non.
Donc
on va suivre.
Vous pensez que c'est trop cher à l'introduction ?
C'est rare. C'est très rare qu'on rentre à l'introduction.
D'accord.
Là, on pourrait, parce que vous avez vu Elon Musk.
Ouais.
C'est l'histoire d'Elon Musk, c'est iconique, hein. Bon, parce qu'il aura plus de 80% des droits de vote. Et donc, il dit le retail, 25% de l'IPO.
C'est
du jamais vu,
pigeons,
ça, non plus.
C'est pas un truc pour attirer les pigeons, un peu ?
C'est-à-dire non, ça fait partie du film.
C'est pas plutôt de se dire c'est eux qui vont faire l'excitation et la volatilité,
et ça
fait monter
certain.
Les prix, ça me permet de vendre plus cher.
Les ménages américains n'ont jamais autant détenu d'actions qu'aujourd'hui.
C'est dingue.
Il y a cette volatilité, il y a cette gestion passive. La gestion passive, elle est aussi entretenue aux États-Unis parce qu'il y a une fiscalité qui est plus attractive.
On rappelle que la gestion passive, c'est la gestion à partir notamment à travers les ETF notamment, et la gestion indicielle.
dérive d'indices. Vous avez des indices qui sont sortis maintenant sur la DRAM, donc pas même pas juste sur les semi-conducteurs, mais une partie des semi-conducteurs.
Sur la DRAM, c'est pas le DRAM. Hein,
non,
j'ai dit pour les gens, parce qu'on a pas mal de gens qui nous regardent au Maroc. Il n'y a pas d'indice sur le DRAM encore. Il y a des indices boursiers.
Il y a des effets mode. Et revenons un peu aux fondamentaux. Mais vous savez, ça ne m'inquiète pas plus, parce que après, les fondamentaux, ils vont reprendre leurs droits.
Ouais, mais quand ils reprennent leurs droits,
sur cette couche-là, il y aura un moment donné. Et c'est le principe. Moi, je n'aime pas parler de bulle, parce qu'une bulle, le principe, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle est. Et on ne sait pas pourquoi elle éclate à un moment donné. Mais ça arrivera forcément. Donc il faut raison garder, comme on dit.
Pierre, quand vous voyez, vous êtes quand même très orienté France, même si vous faites d'autres choses à travers votre fonds Impact. Quand vous regardez, nos deux intros cette année, petites, c'est pas grave, et que vous regardez 1000 milliards, 2000 milliards, vous vous dites, je suis un peu le mec de province, quoi.
Nous, on n'a pas.
Je parle pas de votre accent, ça n'a rien à voir. Ne le prenez pas personnellement.
C'est moi qui me fais bisuter.
C'est exactement, toi, défends-toi un peu.
Merci Marc. Nous, on n'a pas la Silicon Valley, malheureusement. On a un système de retraite par répartition. Donc, tant que ça sera le cas, je veux dire, on ne pourra pas rivaliser, ça c'est sûr. Donc ça, je l'accorde. Mais le système par répartition, à mon avis, finira par craquer tôt ou tard. Ça a déjà commencé. Ça, c'est sûr, on peut pas rivaliser. Maintenant, sur les montants mirobolants, moi, ce que je trouve fascinant, c'est quand même, ce sont des gens visionnaires, là, tous ceux qui lèvent, tous ceux qui mettent, c'est quand même des gens qui ont vu plein de choses.
Une réalité.
Donc, il se passe quelque chose. Clairement. En fait, ils préfèrent mettre gros maintenant pour être sûr d'être dans la partie demain. Donc, clairement, il se passe quelque chose. Maintenant, là aussi, je pense qu'il y a deux certitudes assez claires. C'est que ce genre de révolution, quelque part, ça donne forcément lieu à une euphorie. Et ce qui est sûr aussi, c'est que l'euphorie va se dégonfler.
Mais on ne sait pas quand.
Maintenant, toujours le problème, c'est...
Mais on ne sait pas quand et on ne sait pas s'il n'y a pas...
sous-jacent.
Absolument.
En tout cas, mon sentiment, c'est toujours...
Bien sûr.
Isabelle...
C'est l'histoire de toutes les révolutions industrielles. Si vous regardez, ça a toujours donné lieu à de l'euphorie financière, voire à des bulles financières. On a eu quand même la bulle des chemins de fer au milieu du
19e. Qui a bien connu Christopher.
Si on regarde le crack de 29, ça vient après toutes les innovations liées à la deuxième révolution industrielle. On a eu la bulle Internet. Ouais. Donc on voit très bien, les mécanismes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand on a une innovation, on imagine qu'il y a à la clé des profits juteux, qu'on va avoir énormément de gains de productivité, de la croissance.
Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux narratifs. Parce qu'au début, on a eu le narratif IA, et puis quand ça s'est un tout petit peu essoufflé, on a eu le narratif des puces et des semi-conducteurs. Mmh. C'est marrant, il y a deux narratifs dans cette bulle IA.
Il y en aura d'autres après. La même histoire, et ça pousse, et avec des comportements un peu grégaires des investisseurs, je ne veux pas manquer le mouvement, tout le monde va au même endroit au même moment, ça fait monter les valorisations à des niveaux probablement excessifs. Et ça va probablement un jour dégonfler. Et il n'empêche que l'intelligence artificielle, c'est une évolution industrielle qui va transformer nos économies sur le moyen et long terme. Mais à court terme, est-ce qu'elle sera en capacité de délivrer les promesses de profit, de gains de productivité, etc. Je suis pas certaine à court terme. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un retour à la réalité.
Tout ça, ça devient de la macro aussi, parce que évidemment, ça influe sur la croissance avec l'effet richesse. Et ça veut dire que quand Virginie nous dit peut-être que ça va se dégonfler, mais si ça se dégonflait, ça aurait un impact quand même sur la consommation des ménages, surtout qu'on sait qu'elle est tirée par les 10% les plus aisés.
Voilà, aux États-Unis, tout à fait. Et vous avez sur le patrimoine des ménages américains, vous avez quand même 70% qui est sur des actifs financiers.
C'est
massif. Donc, bien évidemment, effectivement, ils investissent massivement. On le voit. Il y a même un fait qui est assez marquant. D'habitude, quand même, les particuliers via les ETF étaient américains. En l'occurrence, c'était plutôt suiveurs de tendance. Si vous regardez les données du mois de mai. Les entreprises qui ont été choisies par les particuliers américains ont mieux performé de 16 points celles choisies par les fonds spéculatifs et les fonds institutionnels. Donc, ça vous montre aussi qu'ils commencent à avoir une telle assise que malgré tout, c'est plus des acteurs qui sont suivis, ils peuvent initier quelques tendances sur le marché. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à cela. Moi aussi, je suis assez sceptique à l'égard de SpaceX en termes purement d'introduction en bourse, pas sur le business model. Mais malgré tout, si vous avez 25% qui est réservé aux particuliers, je suis d'accord qu'il y aura de la volatilité, mais peut-être que finalement, ce serait une bonne opération également.
Sauf qu'on s'aperçoit que cet argent, il part de quelque part. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il part un peu des bitcoins. C'est marrant. On a l'impression que les gens sortent de l'argent des bitcoins
pour faire du SpaceX. Après, il y a des histoires d'intégration dans les indices. Vrai, hein, mais vous avez vu que Dow Jones et S&P a dit ah non, il n'y a pas de fast track là.
On attend.
Ça sera un an. Mais Nasdaq, oui, en quelques jours, ça va rentrer. Donc oui, il y aura des logiques de flux.
Bien sûr. On va la bourse, Pierre.
Alors, très intéressant. Merci pour cette question. Alors bon, comme on l'a dit depuis tout à l'heure avec Isabelle et Christophe, il y a plus trop de croissance, mais il y a de l'inflation. Et ça veut dire que c'est quoi en économie, ça veut dire stagflation. Donc stagflation, je veux dire, donc moi je me mets plutôt dans ce schéma aujourd'hui de marché. Un marché de stagflation. Alors, comment ça se comporte, un marché de stagflation? Alors, on a une belle période de stagflation 1965-1985, notamment aux États-Unis, qui est bien documentée sur les marchés. Et globalement, ça donne des marchés qui latéralisent, c'est-à-dire qui sans direction. Voilà, des marchés en taux ondulé comme ça. Et c'est ce qu'on voit un petit peu depuis le début de la guerre en Iran. En Iran, depuis le début de la guerre en Iran, le stock 600, il fait moins 1,5, sans direction. Voilà. Maintenant, ça, c'est les marchés.
Les États-Unis ont bien rebondi.
Mais c'est semi. Hein. Si vous enlevez les semis, il n'y a pas.
Voilà, et donc là, c'est là où c'est juste ce que dit Virginie. Merci. Dans les marchés en stagflation aussi, il y a des secteurs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Okay. Donc les deux secteurs à éviter, c'est l'immobilier et la consommation discrétionnaire. Et ça, on l'a bien vu là depuis le début de cette guerre en Iran. Et les deux secteurs à privilégier, c'est la technologie et l'énergie. Alors, c'est à peu près ce qui s'est passé depuis la guerre en Iran. Donc, moi, je suis assez frappé par la similitude, quelque part. Donc, maintenant, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ce mouvement, aujourd'hui, est-ce qu'il est réalisé ou est-ce qu'il va encore aller un peu plus loin? Donc, moi, mon sentiment, c'est que si demain, il y a une paix qui est signée, je pense que ces mouvements que je viens de décrire, ils vont s'inverser violemment sur une courte période, il y aura peut-être une semaine, deux, trois jours. Et ensuite, après, on va revenir un peu à la réalité quand la poussière se sera un peu reposée. Et là, on aura une économie, globalement, qui continuera à ralentir, comme elle était avant la guerre en Iran, et on sera, l'inflation sera encore un peu là, parce qu'il faudra au minimum 2 à 6 mois pour que le marché pétrolier redevienne plutôt normatif, et donc ça veut dire que le sujet de la stagflation peut encore s'exprimer en bourse. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ce que je pourrais dire.
Justement, on passe très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le placement de la semaine pour vous, Virginie, mais moi, toujours les actions, je connais que ça.
Merci d'avoir répondu, hein, c'est bon,
c'est ça.
Passe mon tour.
Et quoi en particulier?
Non, mais alors, il a raison, on a vécu ces rotations sectorielles, et dans ces rotations sectorielles, il y a des opportunités, donc c'est vrai que par exemple tout ce qui touche à l'aéronautique, c'est simple, hein, vous ouvrez votre écran, vous regardez même pas le prix du pétrole, vous voyez si Rolls-Royce à France abaisse, c'est que le prix du pétrole est en hausse. Voilà, c'est,
d'accord. Donc c'est, là, qu'est-ce qu'on achète là?
Donc qu'est-ce qu'on achète?
Tout à l'heure les actions.
On vient sur des segments, des secteurs qui sont délaissés tort. La santé. Un peu d'aéronautique aussi, et dans la consommation discrétionnaire, franchement, il y a des choses qui ont été là aussi perturbées. Donc voilà. Faut faire ce marché.
Très bien.